poche sous les yeux, l'émission.
Eh bien bonjour amis de la Radio Béton, vous êtes bien sûr des poches sous les yeux. L'émission, aujourd'hui une émission des poches spéciale. Vous connaissez la mensuelle, hein, regroupant des chroniques, des interviews en direct d'une librairie, d'une bibliothèque ou d'un lieu culturel. La prochaine aura lieu d'ailleurs ce samedi 26 en direct du Soleil. Mais aujourd'hui, c'est une première, car c'est pas tous les jours que l'un de nos chroniqueurs est publié. Voilà. Bonjour Olivier Pion.
Bonjour.
Voilà, la déontologie légendaire de Radio Béton nous empêchant de faire un public reportage exclusif autour de ton livre consacré à Mozart, hein, nous avons invité également des faire-valoir.
Oui,
voilà. Oui. Bonjour Elisabeth Segar.
Bonjour Pascal.
Et Olivier Collet.
Bonjour.
Alors, on va commencer par parler de la patronne, hein, en référence à... À d'autres écrits, mais la patronne, donc c'est Elisabeth Segar, la directrice de collection. C'est quoi une directrice de collection? C'est quoi son rôle?
Alors c'est un nom effroyablement chic, effroyablement intimidant pour en fait un boulot assez basique, on va dire. En gros, c'est conserver l'axe d'une série de livres, de romans ou d'essais et être le garant de cet axe. En l'occurrence, là, pour Histoire Pop, c'est s'assurer que les romans gardent cet esprit un peu pop, un peu drôle. C'est faire le lien entre les auteurs et la maison d'édition. C'est les guider un peu le long de l'écriture quand ils ont des doutes, des petits coups de blues. Et voilà, être un espèce de coach, de maman. Voilà, c'est assez sympa.
Pourquoi toi? Pourquoi as-tu été choisie pour... Pourquoi Erol t'a choisie?
Parce que, en fait, l'idée de la collection est née d'un roman que j'avais publié chez eux et dans lequel j'évoquais Napoléon sous un angle un peu décalé. Je parlais de Napoléon, de Hitler et je me moquais un peu d'eux. Et la directrice éditoriale m'a dit, moi qui n'aime pas du tout l'histoire, ça me donne carrément envie, en fait, de découvrir des personnages historiques un peu qu'on croit connaître et qui sont beaucoup plus humains que ce qu'on pense. Est-ce que ça te dirait de lancer une collection sur ce thème-là? Et là, je me suis dit, yes, trop bien! Donc voilà, donc c'est né comme ça, on a cherché des personnages un peu sympas à mettre en scène d'une façon un peu différente.
Au niveau de la moula, puisqu'il faut parler un petit peu actuel, ça rapporte d'être directrice de collection?
Pas du tout. Alors ça rapporte beaucoup d'amour, beaucoup de joie.
C'est un travail bénévole?
Non, c'est pas complètement bénévole, ça dépend des maisons, il y en a où on est salarié. Là en l'occurrence, je touche un petit pourcentage sur les ventes.
D'accord. Très bien. Donc, la particularité quand même de cette collection, c'est que le sujet est imposé aux auteurs.
Oui, c'est des commandes en fait. Donc, on cherche des auteurs qui aient envie d'écrire autour d'un personnage.
Sous contrainte.
Sous contrainte. Donc, il y a plein de contraintes. La première, c'est être OK pour parler de ce personnage-là. La deuxième contrainte, c'est que ce soit quand même une biographie, mais sous forme de roman. Donc, il faut être capable d'écrire un roman. Pas juste raconter la vie du personnage, il faut savoir la mettre en scène, créer des dialogues, créer une ambiance, embarquer le lecteur, faire un axe narratif. Et la dernière contrainte, c'est de savoir être sympa avec moi. Ça, c'est quand même une grosse, grosse contrainte.
Ah oui, d'accord. Et beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est ça? Alors, comment tu les choisis, en fait?
Alors, c'était pas mal de bouche à oreille. Parce que c'est quand même quelque chose de pas évident. Et les auteurs très connus, souvent, ils n'ont pas le temps, ils sont débordés. J'en ai contacté quelques-uns qui trouvaient l'idée très sympa, mais ils étaient bookés jusqu'en 2000.
C'est pour ça que tu t'es rabattu sur la seconde zone. D'accord.
On ne dira pas ça. Je me suis rabattue sur des personnes qui étaient plus motivées, qui étaient prêtes à donner d'elles-mêmes. Donc il y a beaucoup de bouche-oreille. Voilà, on demande qui tu connais, qui saurait écrire là-dessus. J'ai un peu pioché aussi dans les maisons d'édition, regarder qui avait écrit quoi, qui on pouvait contacter. Donc ça se fait quand même comme ça. Et après, on discute avec l'auteur et on lui explique. Et il faut vraiment qu'il se le sente parce qu'on va passer quand même entre 4, 6, 8 mois avec un personnage, comme tu disais, plein de contraintes. Donc il faut vraiment être motivé, il faut avoir envie, il faut qu'il s'éclate aussi l'auteur parce que déjà qu'il y a des contraintes, s'il y prend pas un peu de plaisir, ça peut vite être le bagne, quoi.
Et comment être certaine du traitement humoristique et décalé, parce que c'est quand même ça aussi une des contraintes, hein, c'est de l'histoire, mais racontée sous un angle très contemporain, enfin, assez contemporain en tout cas.
Alors, c'est le plus dur. Honnêtement, faire rire, c'est quand même beaucoup plus dur que de faire pleurer. C'est assez facile de tirer des larmes. Donc, trouver des auteurs qui savent écrire de façon drôle, c'est le plus compliqué. Et on a eu beaucoup de chance de trouver des auteurs qui étaient capables de ça. C'était vraiment le, ouais, je pense, le gros défi de la collection. Et pour savoir si c'est drôle, bah, moi, je suis le premier test, on va dire. Je suis la première lectrice. Donc, si je me marre, si, bah, c'est déjà un bon test. Si l'auteur aussi s'est marré en écrivant, c'est aussi un bon test. Et voilà.
Mais ça veut dire que tu reçois, je sais pas, tu demandes de recevoir les premières pages où, et puis tu dis, ah non, non, ça, non, là, c'est pas bon, là.
C'est ça. Voilà, on fait un essai.
C'est déjà arrivé, ça?
Alors, oui, c'est arrivé.
Que de dire, bah non, ouais, arrêtons ouais. Là.
Il y a eu un auteur où ça a été vraiment catastrophique et donc du coup on lui a dit bon bah on arrête. Non, je ne donnerai pas de nom, mais non non on a arrêté parce que c'était pas possible quoi. Et pourtant il avait essayé, hein, il s'était donné du mal, mais l'humour encore une fois c'est hyper compliqué, tout le monde n'est pas capable. Donc oui, l'auteur fait un essai et puis si c'est bon on fait ok, allez on y va et voilà.
Et les sujets, qui les choisit? C'est toi qui les choisis là du coup?
Alors les sujets je les propose. Et c'est la maison d'édition qui valide ou pas, selon souvent un peu des trucs commerciaux, quoi. Enfin, savoir si ça va marcher ou pas.
C'est du marketing, de toute façon.
C'est du marketing.
Ce sont des commerçants.
Exactement, le livre reste un produit, culturel certes, mais un produit. Donc voilà, donc je propose des personnages que je trouve à la fois intéressants, connus, et qui en même temps, si possible, aient une petite actu qui puisse parler au lecteur, quoi.
D'accord. Versailles Gétorix, c'était quoi son actu? J'ai pas capté.
Alors, Versailles Gétorix, il n'y avait pas d'actu, mais en même temps, on s'est dit que c'était tellement décalé que ça pouvait marcher. D'accord. Voilà.
Et Mozart, c'est quoi son actualité?
Alors, Mozart, bah, Mozart, il n'a pas d'actu, mais par contre.
C'est une actualité permanente, Mozart.
Voilà, c'est ça. Mozart, c'est. Voilà.
Fayot, alors.
Non, mais c'est vrai, quand on pense musique, de toute façon, j'ai fait un test, j'ai mis sur Instagram le prochain, ce sera un personnage autour de la musique, et tout le monde m'a dit Mozart, quoi. C'est clairement, c'est le nom qui vient.
Et Victoria.
Victoria, la reine, les rois d'Angleterre, on en entend parler tout le temps. Alors c'est toujours d'actualité, la famille royale britannique.
D'accord. Et on pourrait choisir, enfin, tu pourrais choisir des personnages plus contemporains entre guillemets, je sais pas moi, ou plus polémiques. Hein,
Jacques Chirac.
Non. Allons-y. Pétain, Hitler.
Alors on a, enfin, la directrice éditoriale voulait faire Hitler quand même.
Ah.
Et j'ai dit, ça va être un peu touchy. Bon, on peut tenter, mais je suis pas sûre
voilà,
de la réception.
Faire rire avec des fascistes, c'est.
Alors c'est possible. Hein, il y en a plein qui l'ont fait. Moi, je trouve ça génial. Enfin, c'est au contraire, c'est un super exercice et je pense que c'est quelque chose de très intelligent à faire. Mais je suis pas sûre qu'actuellement on soit dans une société toujours hyper intelligente et que ça soit forcément bien reçu. Donc on s'est dit non, Hitler, on va ranger. Pétain, bon, je pense pas qu'il intéresse grand monde, heureusement. On a pensé à Staline aussi. Voilà, bon, c'était une autre ambiance, mais voilà.
Et on choisit donc un thème, hein, mais... Est-ce que quel est le degré de liberté entre guillemets de l'auteur sur l'axe ou sur la portion de vie qu'il va raconter?
Alors la portion de vie, on essaie de choisir quelque chose qui est pas trop connu, justement qui est pas ressassé, revu, rabâché.
Et ça c'est choisi par Errol ou c'est toi qui le choisis?
Alors,
avec l'auteur?
Je choisis avec l'auteur. En fait, on essaye de voir voilà quelle partie de la vie on pourrait prendre. Ensuite, au niveau de la liberté, il y a de la liberté sur la mise en scène. Par contre, sur les faits, sur les caractères des personnages, on essaie de respecter au maximum. Donc, si y a un personnage qui est extrêmement colérique, eh ben, il sera colérique dans le roman. S'il y a un personnage qui est très falot, il sera falot dans le roman. On essaye que ce soit, on va dire, assez réaliste quand même, pour que voilà, le lecteur ait une vraie...
C'est une trame historique respectée.
Voilà, que la trame historique soit respectée, les dates sont respectées.
Moi, j'en ai lu... J'ai bien été obligé de lire les
Ah oui, obligé. Hein.
Victoria et Mozart, mais j'en ai lu.
T'avais lu Jeanne d'Arc.
J'ai lu. Bah en fait, j'ai lu ceux des
Tourangeaux.
J'ai lu les Tourangeaux.
Donc tous en fait.
Ils sont tous Tourangeaux.
Non. Il y a que l'auteur de Cléopâtre qui est pas Tourangeau.
Ah d'accord. Bon, j'ai lu les deux Michel Douard.
Ouais, voilà. Ils sont géniaux.
Parce que j'adore ce que écrit Michel Parra, mais pas que pour la collection, cette collection, mais les autres. Voilà. Donc. C'est comme ça que je suis rentré dans la collection, entre guillemets. Quel est le temps imparti?
Alors, c'est assez court. C'est encore aussi une des contraintes. En gros, c'est, on va dire, 6 mois. Grosso modo, entre 6 et 8 mois. Michel et moi, on a eu 4 mois. Enfin, parce qu'on était, on nous a prévenu vraiment au dernier moment, c'était hyper serré. On lançait la collection, l'éditrice voulait absolument que voilà, ça sorte, bam, bam, bam. Olivier a eu un tout petit peu plus de temps parce qu'on a pu un peu anticiper. Mais ça aussi, c'est une grosse contrainte. Et franchement, je tiens mon chapeau aux auteurs parce que tout le monde n'est pas capable de, d'écrire sur commande un roman en 6 mois avec autant de contraintes et en plus en ayant tous un métier à côté. Quoi. C'est quand même super, super exploit.
Olivier Collet, c'était suffisant le temps laissé ou ça a été hard?
Ça a été une organisation en fait. C'est-à-dire quoi, j'ai eu à peu près 8 mois entre le moment où Elisabeth me l'a proposé et le moment où j'ai rendu la première version du manuscrit. Il y a quand même eu un premier mois de recherche, de lecture, où on n'écrit pas une ligne, quoi. Juste on cherche justement la période qui va être la plus adéquate à raconter. Mais voilà, j'ai eu 6 bons mois de rédaction. C'est chaud, mais ça se fait, ça demande de l'organisation. En fait, tout est une organisation. Bah ça, c'est moi, j'ai pris 10 jours de vacances au mois de mai pour aller en retraite au Canada pour écrire une partie ou être sûr que je serais pas dérangé par des coups de fil, par tout ça. Je me suis enfermé à la bibliothèque de Montréal. Et voilà.
Carrément, ouais, carrément.
Voilà.
Au Canada en plus.
Dans la bibliothèque de Montréal où il y avait plein de bouquins sur Victoria, c'était parfait.
Donc a priori, la dernière mode, c'est d'aller à San Francisco. Enfin, non, non, bon.
Je suis un peu plus honneur.
Olivier Pion. Ça t'a paru dur le timing?
Moi, je dirais un peu comme Olivier, c'est-à-dire qu'il y a une première partie de recensement d'informations qui est un peu longue, qui est un peu fastidieuse. Mais après, quand tu commences à écrire, finalement, c'est une activité qui s'auto-alimente. Donc, tu es emporté par ta propre verve et ton inspiration. Et puis il y a ChatGPT quand même qui aide beaucoup, hein, mais ça on peut pas le dire.
Oui,
mais non, c'est quand tu te lances, t'as l'impression
les passages pas drôles sont de ChatGPT en fait, c'est oui. Ça.
Mais une fois que t'es dedans, finalement, ça va assez vite. Hein. Moi, j'ai été surpris effectivement de mais sans doute parce qu'on est tous très talentueux, hein, aussi. Il faut pas négliger ce facteur-là.
Alors, les livres sortent en brochet et en poche.
Oui,
systématiquement en poche ou
Oui, ils sortent systématiquement en poche. D'abord en brochet, on a essayé de faire des livres un peu sympas, un peu colorés, justement qui montrent que voilà, l'histoire n'est pas quelque chose de ringard, de tristoun et de ténébreux. Et ensuite en poche pour que ce soit un peu plus accessible aussi à toutes les bourses, notamment les collégiens ou les lycéens qui pourraient avoir envie de lire des choses sur des personnages qui s'étudient à l'école.
La version poche, elle sort au bout d'un certain nombre d'exemplaires vendus ou au bout d'un certain temps?
Au bout d'un certain temps, grosso modo, on va dire à peu près un an.
Pour les auteurs, c'est le contrat est le même pour chaque auteur ou si on creuse bien, on va avoir des différences entre les Olivier.
Alors, je voudrais pas semer la zizanie, mais il y a un des Olivier qui a été payé 2 fois plus que l'autre. Donc non, c'est pas vrai. Non, on a tous les mêmes contrats. C'était vraiment aussi une des bases de la chose. On est tous logés à la même enseigne. Voilà.
C'est quelque chose qui rend riche ou pas de d'écrire pour cette collection
Alors, pas du tout. Et je pense que si on fait le calcul du temps passé par rapport à ce qu'on a touché, non, ça rend clairement pas riche.
Ça équivaut à un petit SMIC sur le temps passé, juste sur l'écriture.
Non.
Un petit,
fou,
petit SMIC. Ah, bah, pour moi, j'ai fait le calcul à peu près juste sur l'écriture, pas ensuite tout le travail de correction, relecture, juste sur la partie écriture. Pour moi, personnellement, ça a été l'équivalent d'un petit SMIC.
Oh, bah, dis donc, le SMIC est déjà pas très élevé. Alors là, on atteint quand même des.
J'avais une question aussi sur le changement. Il m'a semblé voir un changement de stratégie marketing. Hein, dans la dénomination des romans, c'est-à-dire que il y en a un qui s'appelle Mozart, l'autre qui s'appelle Victoria, mais ceux de Michel Douard s'appelaient quelque chose. Maintenant, c'est roman ébouriffant. Enfin, c'est le nom du personnage et dessous roman ébouriffant, alors qu'avant le titre était plus drôle.
Alors ça
là, c'est le marketing qui a parlé.
Ouais, ça c'est le marketing qui a parlé. Personnellement, ça m'a fendu le cœur parce que j'adorais chercher un titre un peu marrant avec. Avec l'auteur, c'était quelque chose qu'on trouvait vraiment sympa et qui, à mon avis, justement, donnait du peps au livre. Mais les libraires avaient du mal à comprendre si c'était un roman, si c'était une biographie, etc., si ça parlait vraiment d'histoire ou pas. Donc, du coup, le service commercial a souhaité repositionner en mettant juste vraiment en gros le nom du personnage. Donc du coup, il y a des voilà, il y a malheureusement Victoria, Mozart, ils sont amputés, Cléopâtre, ils sont amputés, ils ont pas eu droit à un joli titre rigolo.
Mais ça va devenir une, c'est comme ça que cela va être dorénavant.
Désormais, ça sera ouais. comme ça.
Des prochaines sorties sont déjà parce que là donc celui d'Olivier Collet, Victoria est sorti en juin.
C'est ça.
Celui d'Olivier est sorti en septembre.
Septembre.
Ouais. Oui.
Et alors pour 2025, non, on n'a pas encore le planning.
D'accord.
Donc celui qui va écrire en 2025, eh ben, il va devoir faire très très vite.
Vas-y,
propose.
Il n'y a aucun livre sur le feu, là.
Non, on n'a pas de livre sur le feu pour l'instant.
D'accord, très bien. Eh ben moi, je propose qu'on se fasse une première pause musicale avant de donner la parole à Olivier Collet. Et puisqu'on parle de Queen hein, et qu'on est sur Radio Béton, j'ai calé un petit Sex Pistols, si vous êtes d'accord. C'est un peu voilà, un peu téléguidé, mais bon, allez, un petit God Save the Queen.
You were wrong, old bean, because we're back with a vengeance.
God save the Queen, my son.
Voilà, de retour sur les ondes de Radio Béton, toujours en direct des studios pour ce dépoche sous les yeux spécial histoire pop. Une dernière petite question, imaginons qu'un de nos auditeurs ou auditrices ait vachement envie, se sente la fibre roman d'histoire pop. On peut écrire pour proposer ses services?
Ah oui, il peut me contacter sur Facebook et puis je lui répondrai avec plaisir.
D'accord, très bien. Alors, Olivier Collet, donc oui. Journaliste, journaliste radio.
C'est vrai, c'est journaliste radio et presse écrite, je fais deux choses dans la vie. Ouais, déjà.
C'est ça qu'on voit surtout sur ta fiche LinkedIn. Chéri FM, donc.
Oui. Hein.
On passe pas trop de Sex Pistols.
Non, la dernière fois, ça devait être un petit moment, c'est vrai. Mais on est beaucoup plus moderne que vous pouvez le croire.
Non, non, mais... Et donc, tu es aussi journaliste écrit, on va dire.
Ouais, je travaille pour les médias InfoTour et 37 degrés, voilà. Qui existent depuis 10 ans maintenant à Tours.
Très bien. Et donc, tu as déjà sorti un bouquin, et ça, c'est ton deuxième.
Voilà, j'ai sorti un premier roman, une comédie romantique en 2022, RER Réseau Express Romantique, histoire... d'amour plus ou moins raté dans les transports en commun. D'ailleurs, Elisabeth m'avait beaucoup aidé dans ce premier projet de roman, dès l'écriture pour m'encourager et ensuite derrière pour m'aider à le concrétiser. Donc c'est pour ça que je trouve ça très chouette d'ailleurs qu'elle m'ait proposé ce projet-là ensuite sur Victoria pour Erol et qu'elle m'ait accompagné là-dessus parce que je trouve que c'est une belle boucle bouclée. Et donc oui, Victoria qui est sortie il y a 3 mois.
Et donc, tu savais que tu avais un talent humoristique reconnu ?
Sur mon premier roman, j'avais déjà voulu y mettre de l'humour. On avait eu tendance à me dire qu'il y avait des passages drôles et c'était le but. Donc oui, et puis déjà de base, comme le disent certains de mes amis en se moquant de moi, mon créneau, c'est l'humour. L'humour potache, l'humour parfois un peu naze, le jeu de mots un peu sorti tiré par les cheveux. J'aime ça. Donc, voilà, après, est-ce que c'est drôle ? Chacun en jugera. Moi, ça me fait rire.
Et l'histoire, quel rapport tu as avec l'histoire ? T'as été un...
Pas grand-chose depuis le lycée.
Non, mais au moins... ouais, moi, par exemple, je sais que je suis passé à côté de l'histoire. Voilà.
Moi, j'aimais
collège
ça.
Collège et lycée. Et quand je rencontre des gens qui sont férus d'histoire, qui me racontent des choses, je reste bouche bée parce que je me rends compte que... Je n'ai rien compris à l'histoire.
Moi, j'aime ça. Après, tu vois, par exemple, je ne suis pas le genre de gars qui va aller forcément se réserver une visite guidée au château, des choses comme ça. J'aime bien l'histoire, ça m'intéresse, mais je ne vais pas forcément retenir les choses ou je ne vais pas forcément vouloir aller au fond du fond. Parlons concrètement, moi, le 19e siècle et Victoria, il a vraiment fallu que je fasse des recherches pour me plonger dans cette époque-là parce que ce n'est pas du tout mon univers.
En plus, même c'est l'histoire anglaise, quoi.
Voilà, même quand je lis des bouquins, moi, j'ai plutôt tendance à lire des livres sur l'époque contemporaine. C'est ce qui va m'intéresser le plus à première vue. Il y a toujours des exceptions et Victoria est une très, très belle exception. Je suis ravi de m'être plongé dans ce 19e siècle que je ne maîtrisais pas spécialement.
C'est une question que je n'ai pas posée, mais en fait... Quand Elisabeth te propose, elle te propose un thème ou elle te propose plusieurs thèmes et
Ah non, elle me propose Victoria. Victoria, est-ce que tu te sens d'écrire un bouquin sur Victoria ? Voilà. Je lui ai dit, je ne sais pas faire, mais
Victoria
je peux essayer.
Victoria ou va crever, quoi, c'est ça ?
C'était exactement ça. Elle ne m'a pas dit Victoria ou Mozart, par exemple. Oui. Typiquement, elle m'a dit, est-ce que tu te sens de faire la reine Victoria ? Je lui ai dit, comment on ne te propose pas tous les jours d'écrire
question,
un bouquin ?
Directement, question pour Elisabeth, est-ce qu'il a une tête de Victoria ?
Totalement, et il le cache bien, mais...
C'est mon côté so British.
C'est difficile parce que ouais, c'est je crois qu'ils avaient le choix sur le thème.
Alors, et quelquefois le choix, pas toujours, j'avoue. En l'occurrence, avec Olivier Collet, je savais qu'il était capable de beaucoup d'humour, de pince sans rire. Et comme il est journaliste, il a aussi l'habitude de faire des recherches et de voilà, taper dans un sujet qu'il ne connaît pas forcément. Et je me suis dit, Victoria, c'est un peu décalé, ça peut lui plaire. Enfin, parce que justement, je savais que ce n'était pas forcément son thème de prédilection. Et en même temps, j'étais sûre qu'il saurait s'en emparer. Et la preuve, c'est que ça a bien fonctionné.
Alors, parce que moi, j'avoue que bon, l'ère victorienne, l'époque victorienne, je connaissais de nom. Hein, mais alors, je...
Maintenant, t'es incollable.
Je ne savais pas du tout que ça avait un rapport avec une reine qui serait appelée Victoria. Voilà. Je m'excuse, hein, j'étale mon ignardise. Sans problème, toi, Olivier, t'étais déjà un petit...
J'étais pas beaucoup plus au fait que toi, hein, on va pas se mentir. Voilà, j'avais déjà entendu parler de la reine Victoria, mais j'aurais pas su, par exemple, te dire qu'elle avait eu 9 enfants, quoi. Voilà, ça, c'est pas quelque chose que j'aurais été capable de dire. J'aurais pas été capable de dire que c'était d'elle qu'on avait maintenant l'habitude de porter des robes de mariée blanches. J'aurais pas été capable de même dire qu'elle avait vécu 90 ans. Voilà, tout ça, j'aurais pas su.
Quand Elisabeth t'a proposé ça... Ce thème,
un matin dit... à 8h45,
et tu dis oh merde, non?
Non, non, je me suis dit waouh, chouette, un défi, chouette, un truc que je sais pas faire, mais il y a déjà
positif.
Quelqu'un qui me fait confiance pour le faire. Et puis, quand je disais il y a quelques minutes, c'est pas tous les jours qu'on te propose d'éditer un bouquin où tu es quasiment certain que tu vas être publié derrière. On sait quelle complexité ça peut être d'écrire un roman et de trouver un éditeur. Là, en gros, il y a quand même la moitié du travail qui est déjà faite.
Ah, d'accord, monsieur les calculateurs.
Bah, franchement, ouais.
En se disant, pour mon troisième roman, ça sera plus facile.
Qui sait ?
Et donc, tu l'as décrit de manière assez drôle, mais surtout, tu l'as décrit comme la première influenceuse.
Ouais. Ouais, alors est-ce que c'est la première influenceuse ? Je sais pas. En tout cas, c'est une grosse influenceuse du 19e siècle. Ça, je pense que, vu de notre époque, c'est assez indéniable. Voilà, elle a accompagné
Une influence sur la mode.
Qui a eu une influence sur la mode, clairement. Voilà, elle aimait dessiner. C'est elle-même qui l'a dessinée, sa robe de mariée, quand même. On oublie peut-être un petit peu ça dans l'histoire, mais elle faisait des croquis. C'était pas une reine passive.
Et c'est vrai que tu nous l'as décrit comme une féministe rebelle.
Voilà, alors peut-être que de cette époque-là, on n'aurait pas forcément vu les choses comme ça. Il y a aussi plein d'autres signes qui montrent qu'elle n'a pas eu une existence de femme féministe au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui en 2024. Mais de voir quand même que c'est elle qui a demandé son mari en mariage, son futur mari en mariage, bon, bah, on pourrait voir ça aujourd'hui comme quelque chose qui renverse certains codes, ne serait-ce que ça. Ou alors le fait qu'elle ait osé dire qu'elle n'aimait pas être enceinte, ça c'est quand même un discours où encore aujourd'hui énormément de personnes qui, quand une femme leur dit « j'ai pas aimé d'être enceinte », mais ouvre des grands yeux, mais comment c'est possible que tu n'aies pas aimé être enceinte ? Moi c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder quand j'ai découvert ça dans sa vie, parce que j'ai autour de moi plusieurs femmes, plusieurs amis qui m'ont dit « j'ai détesté être enceinte, je suis très heureuse d'être mère, mais j'ai détesté être enceinte », et en fait on n'en parle pas de manière positive.
Alors justement, raconte-nous un petit peu. On te dit Victoria. Victoria tout court, ou c'est ensuite tu fais un peu de recherche pour déterminer l'axe. Comment
ouais,
t'as
j'ai,
fait
j'ai acheté une bio que Elisabeth m'a recommandée, qu'elle jugeait bien. Je l'ai lue. Et après ça, je me suis dit, OK, quelle partie de sa vie peut m'intéresser ? Et celle qui m'intéressait, c'était justement celle où j'avais notamment repéré ce trait de caractère du fait que elle n'aimait pas être enceinte, elle détestait complètement cet état. Et ensuite, elle avait fait de grosses dépressions postpartum après ses grossesses, notamment les deux premières. Je trouvais ça intéressant, d'autant plus que cette période-là, qui correspond à la période qui va de son couronnement à l'âge de 18 ans à la naissance de son deuxième enfant 4-5 ans plus tard, est une période où elle a déjà connu ses premières tentatives d'assassinat, où elle a connu deux énormes affaires politiques avec des scandales, dont un scandale où on lui reproche en gros d'avoir forcé une femme de la cour à subir un test de virginité pour prouver qu'elle elle n'avait pas eu de relation sexuelle alors que tout le monde la suspectait enceinte et d'avoir commis un adultère. Enfin, voilà, niveau scandale, on était quand même servi. Donc il y avait la matière à faire un roman là-dessus.
Très bien. Et dans ton livre aussi, elle subit des assauts journalistiques d'un journaliste, d'un fucking froggy.
Fucking français.
ça c'est inventé, ça.
Ça, j'ai inventé ce personnage-là en m'inspirant du nom d'un journaliste de l'époque qui écrivait des lettres de Londres dans un journal français depuis Londres. Je me suis inspiré de ça pour créer le personnage, mais en soi, le fait que la presse, par exemple, la critique beaucoup, alors qu'à une époque, elle avait été adulée par ces mêmes journaux, ça, c'est quelque chose d'historiquement vérifié et véridique. Qu'on trouve dans les archives. Voilà, je cite aussi à certains moments quelques passages authentiques de journaux dans le livre. Donc voilà, ce journaliste Henri Latour-Mazarié, français correspondant à Londres, il est complètement inventé, mais se base.
Mais elle a eu des problèmes avec la presse, quoi.
Ouais, elle a eu des soucis avec la presse, complètement. Je pense qu'il y a des matins où elle a dû avoir très très envie de déchirer les journaux.
Elisabeth, quand un auteur ou une autrice revient vers toi avec donc son axe d'histoire romanesque, c'est déjà arrivé que tu dises bof.
Je crois pas, j'ai pas le souvenir. Non, c'est parce que en général je fais plutôt confiance à l'auteur et c'est lui qui va passer aussi 6 mois avec un personnage, donc il faut qu'il se sente bien avec ça, il faut qu'il se sente bien dans ce moment-là, cette période-là. Et comme de toute façon, au départ, l'auteur sait qu'il doit prendre un passage pas trop connu. En général, si ce sont ce passage-là, moi, ça me va. Et en l'occurrence, pour Victoria, je trouvais que c'était une super idée parce que ça montrait toute la modernité de cette femme qui, à contrario, est vu aujourd'hui comme le cliché de la vieille mémé ringarde, hyper corsetée. Enfin, voilà, on dit être victorien, c'est vraiment être, enfin, l'adjectif qui veut dire que t'es hyper coincé, hyper old school, etc. Et Victoria, elle dit tout sauf ça, justement. Elle a envoyé bouler sa mère, elle voulait pas se marier, elle voulait pas avoir d'enfant. Enfin, c'était complètement iconoclaste pour l'époque. Donc, je trouve ça génial de s'attarder vraiment sur cette période-là, qui est la moins connue et qui montre justement toute cette facette qui est intéressante chez Victoria et qui nous rappelle que c'était une femme incroyable quand même, avec une force de caractère et qui a beaucoup souffert aussi dans sa vie, enfin qui a été voilà, et qui en même temps a été hyper amoureuse, qui a vécu une super belle histoire d'amour. Donc tout ça, je trouvais ça ultra moderne.
Qui a choisi son mari et qui...
Voilà, ça, c'est parce que c'est vrai que l'une des images qu'on peut avoir de Victoria, quelque chose qui est très connu, c'est le fait qu'elle s'est habillée en noir pendant des décennies et des décennies après la mort de son mari qui est mort prématurément. Ça, c'est vrai que c'était quelque chose. Moi, quand je l'ai relu, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu parler de ça. Voilà. Mais par contre, ouais, le fait que c'est une femme à poigne, qu'elle, oui, elle voulait pas se marier, elle voulait pas avoir d'enfants, et pourtant, elle a fait les deux, et les enfants, elle en a quand même eu 9. Donc niveau, je change d'avis. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Elle est pas mal hein, dans le domaine. C'est quand même assez fou.
Bon, d'un autre côté, au niveau contraception, l'époque n'était pas très fournie. En...
Non, c'est ça.
Non, surtout que c'était, et on le sait, ça s'est documenté, elle aimait ça. Elle aimait le sexe. Pour le coup.
L'influence de sa mère, et elle a beaucoup de problèmes avec sa mère, d'après ça, c'est vrai, ça.
Ça, c'est vrai, c'est documenté. Elle l'avait relégué à l'autre bout du palais de Buckingham, histoire d'être sûre d'être le plus loin possible d'elle, par exemple. Elle lui a fait des noises pour... Il y a eu des noises qui ont été faites pour éviter que sa mère, quand elle n'était pas encore majeure, devienne régente si d'aventure le roi d'Angleterre venait à mourir. Il y a eu des choses comme ça. Mmh. C'était très difficile pour elle d'avoir des relations normales et apaisées avec sa mère. Paradoxalement, Albert, son mari, lui, avait pas trop de mauvaises relations. Quoi.
Et tu parles aussi d'une voyante. Tu mets en Madame Lune, si mes sur son nom.
Madame de Lune, tout à fait.
Ça, c'est inventé, ça.
Alors ça, c'est pareil, je l'ai complètement inventé. Mais quand j'ai eu l'idée et que je m'en suis ouvert auprès d'Elisabeth, elle m'a dit ça tombe bien parce que c'est à peu près au 19e siècle que ça a commencé, l'art divinatoire, ce genre de choses-là. Et donc, c'était cohérent. Ça me permettait, moi, en plus, de pouvoir aborder, de trouver une pirouette narrative pour aborder le reste de sa vie. Parce que je voulais pas non plus, même si j'avais choisi cette période de sa jeunesse, occulter justement toute cette partie héritage qu'elle a aujourd'hui et qu'on a encore aujourd'hui dans pas mal de choses. Et je trouvais que c'était une pirouette sympa de par l'art divinatoire, par les prédictions, d'aborder la suite de son règne et de sa vie. Genre par exemple son deuxième fils qui a fait des frasques à la vingtaine, qui était un peu le Harry de l'époque du 19e siècle.
Bon, bah, très bien, merci Olivier. Si on te propose un nouveau roman d'histoire pop, tu fonces.
Ouais, de fou.
Très bien, pas mal. Alors, on va se faire une deuxième pause musicale. On va s'écouter un peu de Mozart hein, sur les ondes de Radio Béton. Ça, bah, du vrai Mozart, même pas du Mozart revisité, du Mozart. Il y a une émission de musique classique, je crois qu'elle a arrêté, mais donc... poursuivons. J'ai choisi quelque chose. Alors, par contre, là, je fais une... faute de goût, entre guillemets, hein, puisque on le verra tout à l'heure, le roman d'Olivier Pion parle plutôt de la jeunesse, l'extrême jeunesse de Mozart, alors que là, j'ai carrément été creusé du côté de la tombe, hein, puisque on va s'écouter une partie du Requiem de Mozart, donc on est vraiment Requiem qui, j'ai appris hein, en faisant des recherches qu'il n'avait pas fini, voilà. Hein, donc on va s'écouter Lacrimosa de Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Et bien de retour sur le 93.6, voilà, après les Sex Pistols, Mozart, moi je trouve que le grand écart, moi j'aime bien ça. Olivier, c'est donc toi qui as commis Mozart dans le roman ébouriffant chez Erol.
Ah, il paraît, ouais.
Ouais. Et c'est ton premier roman.
C'est mon premier roman, ouais. Ouais, ouais.
Elisabeth, on prend souvent des primo parturiants comme ça
C'était pas le seul, parce que Juliette Lécureuil, qui a écrit Vercingétorix, c'était aussi son premier roman. Mais c'est, voilà, j'avais une foi absolue.
Parce que là, il y a quand même un risque, là, non?
Il y a un risque. Après, Juliette, je savais vraiment comment elle écrivait, je savais qu'elle était capable. Et Olivier, c'est Michel qui m'a parlé de lui, qui m'a dit « Si, si, je te jure, il est capable et tout. Vas-y, lis ce qu'il a écrit. » Donc, j'ai lu une nouvelle écrite par Olivier. Et j'ai fait « Ouais, c'est bon, là, il y a du potentiel. » Donc après, j'ai pas caché à Olivier que c'était quand même difficile, c'était pas un exercice facile d'écrire un roman, que c'était un peu un marathon, que voilà, il y aurait des moments un peu compliqués, que voilà, il fallait qu'il s'accroche, mais qu'on croyait très fort en lui et on a eu raison, la preuve.
Bon, et alors, tu sors comment de cette épreuve, grandi ?
C'est pas vraiment une épreuve, c'est une expérience extrêmement enrichissante personnellement, enrichissante peut-être financièrement, mais ça l'avenir le dira. Mais il y a effectivement la première chose qui est vraiment intéressante, c'est dans le rapport avec Elisabeth, c'est pas pour failloter parce qu'elle est en face de moi, mais effectivement il y a un rapport de confiance qui s'établit, et puis il y a quand même un examen de passage, hein, avant de se lancer. Elisabeth m'a demandé de lui présenter un plan, un premier chapitre théorique, enfin un premier chapitre qui ne serait pas forcément dans la version finale, hein, et il y a eu une validation à ce niveau-là, y compris de la part de la directrice de collection, mais aussi de l'éditeur, hein. Voilà, on aurait pu me dire t'es gentil coco, mais t'écris avec tes fesses, quoi, ou de manière plus diplomatique sans doute, hein, mais, voilà.
Encore les fesses. Oui. Mais t'avais les socottes.
Comment, pardon?
T'avais les socottes?
Non. Pas plus que non. Ça, pas plus
t'étais
que
confiant,
ça.
Hein.
Ouais. Bah, après, alors je sais pas si tu veux qu'on rentre dans les détails de la construction, mais c'est comme Elisabeth le disait, c'est Michel qui nous a mis en contact, hein, et les premiers essais qu'on a fait, quand on a discuté ensemble, on n'était pas du tout parti sur Mozart. Hein, après, ça s'est fait un petit peu par hasard. Donc, si tu veux, moi, j'ai amorcé un processus d'écriture où j'avais très envie de le faire. Et puis, ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Et à un moment, Elisabeth m'a dit, pourquoi pas Mozart, est-ce que ça t'intéresserait? Parce qu'il y avait un besoin qui se crée à ce moment-là. Et comme j'étais lancé dans le truc, je m'étais dit, pourquoi pas? Effectivement, on apprend plein de choses.
Et toi, c'était un rêve d'écrire un roman? Ou parce que Elisabeth l'a dit, tu écris. Et d'ailleurs, bon, tout le monde sait que tu es un chroniqueur. Hors pair, champion.
C'est ce qu'on prétend.
Ouais. Tu fais des chroniques pour Radio Béton, pour l'émission Des Poches sous les yeux. On connaissait ton blog, oui mais non. Mm-hmm. Donc on avait déjà pu apprécier ton écriture, mais de là écrire un roman, t'avais vraiment envie. C'était une envie qui te tenait depuis longtemps.
Oui, mais c'est-à-dire que je suis plus. Moi, je suis un écrivain amateur, mais je suis plus coutumier des formats courts. Mais pour autant, je m'étais essayé à des formats un peu plus longs, mais sans jamais les proposer à des éditeurs. Hein, parce qu'il y a une chose qui est quand même très confortable dans cet exercice-là, ce qu'évoquait Olivier tout à l'heure, c'est que tu ne vas pas à la pêche à l'éditeur, tu ne vas pas proposer ton travail à des gens qui te disent...
Il y a moins de râteaux.
Oui, exactement. C'est-à-dire que tu rentres avec un contrat et après, bon, t'as juste à écrire... Ce qui n'est pas rien, mais
une gageure.
La démarche est quand même vachement plus confortable que de passer des mois à essayer de concevoir un texte que tout le monde te refuse. Tu vois.
Donc c'est d'un côté, tu n'as pas le choix, tu as une contrainte de thème.
Oui.
On ne peut pas tout avoir.
Non, on ne peut pas tout avoir, mais l'écriture se fait toujours sous contrainte, d'une manière ou d'une autre. Mais là, c'est une contrainte qui est... On peut prendre tellement de liberté avec les personnages, avec les héros, que finalement, c'est une contrainte qu'on dépasse assez rapidement, quoi.
Mozart, donc t'étais un fan de musique classique? Enfin, tu es un fan de musique classique ou ça t'est complètement étranger?
Honnêtement, non, j'écoute pas énormément de musique classique et en particulier, je suis pas un fan absolu de cette période-là. À tout prendre, moi, j'écouterais plutôt Stravinsky ou Erik Satie, tu vois. Mais la musique de Mozart, mais je connais.
Tu es un homme moderne.
C'est difficile.
Quoi, c'est ça.
Exactement. C'est difficile de ne pas connaître de la musique de Mozart parce que c'est quand même l'un des compositeurs les plus connus au monde. Hein. Et puis il y a la petite musique de nuit, la marche turque, etc. Si tu l'as pas entendu mille fois dans des pubs, sur des messages d'attente, des choses comme ça, tu vois. Bon voilà. Mais on peut pas dire que j'étais un fan de Mozart, hein, ni de la musique, ni du personnage lui-même que je connaissais, que j'ai découvert en écrivant le livre.
Quoi. Donc recherche bibliographique, discographique. Oui. Pour pouvoir déterminer l'axe que tu as fait comment là du coup ?
Très rapidement, comme je suis arrivé sur un projet qui était engagé mais pas du tout finalisé, on était déjà sur cette période-là, 1763-1766, le voyage de Mozart à travers l'Europe, son père il y en a deux Mozart, hein. Il y a Wolfgang qui est le héros du livre, hein, et qui a la destinée et la notoriété qu'on connaît, mais il y a aussi Nannerl, sa sœur aînée, qui est à l'époque, hein, on parle de Mozart qui a 6 ans là, qui a entre 6 et 11 ans, le Nannerl qui a 50 plus que lui et qui est une virtuose absolue du clavecin, du pianoforte, etc. Malheureusement pas du violon, malheureusement pour elle, parce qu'elle aurait bien aimé, mais
qui donne un beau rôle d'ailleurs à cette année.
Oui.
Alors que l'histoire l'a oublié.
L'histoire l'a négligé. Et en fait, l'une des portes d'entrée dans ce personnage, si je puis dire, ça a été vraiment un film de René Ferré qui s'appelle Nannerl, la sœur de Mozart, hein, qui pour le coup la met très en avant. Alors c'est pareil, hein, lui il prend, moi j'ai pris des libertés avec l'histoire, mais alors René Ferré il y va franco, et il remet en avant ce personnage qui est extrêmement attachant. Voilà. Alors c'était pas l'héroïne du livre, mais c'était difficile de pas. Dans le livre, il y a ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les rapports entre le père. Qui est mu par un certain nombre d'ambitions artistiques, financières, etc.
Parce que tu nous décris une tournée de rock, ouais, d'aujourd'hui, une tournée qui n'en finit pas, oui, avec un producteur qui n'est intéressé que par le fric. Et donc là, en fait, c'est le père, c'est Monsieur Mozart senior, et avec son fils et sa fille, et qu'il va vendre pendant plusieurs années.
Ouais, ouais. Alors, dire qu'il va les vendre, c'est un peu peut-être excessif, mais c'est pas loin de la vérité.
Il est quand même très intéressé par la thune.
Ah oui, il est très très cupide. Hein. Mais il a quand même un personnage qui a un très grand attachement à la musique, en particulier à la musique allemande, parce qu'il est aussi chauvin, et qui a une conception de la musique assez élevée. Mais ce qui était très intéressant justement dans cette aventure, alors tu l'as dit, c'est traité un peu comme une tournée de rockstar, mais ce qui était vachement intéressant, c'était les rapports entre Wolfgang, qui prend conscience d'un certain nombre de choses parce qu'il grandit petit à petit, il découvre des émotions, etc. Lui, il est assez il est assez ignorant de son génie, quoi. Le père voit le bénéfice financier qu'il pourrait en tirer, avec des subterfuges qui sont parfois discutables, quoi. Il n'hésite pas à minorer à présenter son fils comme plus jeune qu'il n'est, justement pour que ce soit encore plus spectaculaire, etc. Et ce qui était vachement intéressant, c'était les rapports entre les deux enfants et ce père, hein, qui n'est pas encore une fois motivé que par des bonnes intentions, mais qui évolue quand même au cours du roman, j'espère qu'à la fin on le trouve quand même plus attachant qu'il n'est au début.
Pas au point de laisser sa fille jouer l'instrument.
Non, mais là c'est un truc indépassable, quoi, c'est une femme, hein. Tu vois, il y a un moment. Mais d'ailleurs, dans le roman, la mère de Mozart est très effacée elle-même, alors qu'elle n'hésite pas en privé, quand la santé de ses enfants est en jeu, à s'opposer à lui. Mais on voit bien que les femmes sont en retrait. Et puis finalement, la mère en a pris son parti, mais Nannerl, non, elle refuse d'admettre. Donc il y avait aussi ce sujet-là qui était intéressant. C'est quelle emprise ont les parents sur les enfants et comment on peut discriminer de manière sexiste. Mais et je pense même pas que Léopold soit un vieux con réactionnaire, c'est-à-dire que c'est un homme de son temps malheureusement et qui pour lui c'est, non. Mais ça ira plus loin. Ce qui est pas raconté dans le roman, c'est que il choisira à sa fille un mari. C'est-à-dire qu'elle était amoureuse d'un type, il lui dit non, pas celui-là, tu vas plutôt épouser celui-ci qui est un peu plus vieux mais plus riche. Et il y a un truc que je trouve absolument dégueulasse, c'est que ils reviennent donc de leur voyage, ils reviennent à Salzbourg, etc. Peu de temps après, ils repartent en Italie et il n'emmène que Wolfgang. C'est là qu'il va se former à tout ce qui est la musique d'opéra, etc. Et Nannerl reste à Salzbourg et elle donne des cours de musique pour financer pour financer en partie le. Donc c'est un destin qui est assez triste pour cette pauvre Nannerl qui a une vie acceptable par ailleurs. Hein,
Dans toutes les tournées de rockstar, la drogue est aussi présente. Ouais. Et elle est donc présente dans le bouquin. Le jeune Mozart a besoin d'un petit remontant avant de jouer. Bon, comme il a 6-7 ans, il ne s'agit pas de poudre blanche, ou plutôt à la fin, il s'agit de poudre blanche, mais de la poudre blanche sucrée. Le parallèle avec le sucre glace est d'ailleurs assez cocasse, mais bon. Donc ça, c'est inventé, ça, cette addiction au sucre.
Alors, ce qui n'est pas inventé, c'est que Mozart était très, très, très gourmand. Il mangeait beaucoup. Je crois qu'il est à la fin de sa vie, il était quasiment obèse. Hein. Et il était très. Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai introduit parce qu'il y avait cette idée de faire le parallèle un peu avec la vie des rockstars, la défonce, etc. Et puis un petit clin d'œil au Brown Sugar des Rolling Stones. Et c'est Elisabeth qui, après coup, m'a dit c'est une vachement bonne idée parce que Mozart lui-même était très, très, très fan de sucre. Alors, peut-être pas à cette époque, mais comme quoi c'est inventé, mais il se trouve que l'invention a recoupé la réalité.
Bon, très bien. On va se faire non pas une pause musicale, mais ton camarade de chronique, Vincent, a fait une petite chronique sur Mozart. On va l'écouter.
En 1966, mon année de naissance, coïncidence, je ne crois pas. En 1966, disais-je, Gilbert Cesbron publiait « C'est Mozart qu'on assassine ». 58 ans plus tard, Olivier Pion publie chez Erol C'est Mozart qu'on ressuscite. Bon, pour de sombres histoires marketing sur lesquelles je ne m'attarderai pas trop, le titre initialement choisi par l'auteur n'a finalement pas été retenu. L'éditeur a, paraît-il, d'abord proposé Mozart est là, et puis allez savoir pourquoi, peut-être à cause de la lourdeur de ce calembour que ne renierait pourtant pas notre cher ami et néanmoins chroniqueur Remix, Erol a opté pour Mozart, un roman ébouriffant. Un roman ébouriffant? Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Au sens propre, j'avoue que, depuis que je me suis laissé pousser les cheveux, il arrive que certaines de mes lectures m'ébouriffent. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux, non? Vous ne trouvez pas? Au sens figuré, la lecture du premier roman d'Olivier Pion m'a-t-elle paru extraordinaire au point de me choquer? Allons y voir. Je connais la verve de l'auteur pour ses chroniques régulières sur les ondes de Radio Béton, où il profite du prétexte d'une chronique pour digresser sur le sens de la vie ou l'usage que l'on peut faire de son séant. J'avoue, je suis fan. Je connais aussi son imagination intarissable qu'il a récemment mis à disposition d'un road feuilleton radiophonique, également diffusé sur Radio Béton, devant mener ses protagonistes de Tours jusqu'à la Bourboule. C'est hilarant. Alors, quand j'ai commencé la lecture de « C'est Mozart qu'on ressuscite », enfin, Mozart, un roman ébouriffant, voulais-je dire, je savais que j'allais me régaler. Mais quelle régalade! D'abord parce que le sieur Pion décide de focaliser son récit sur une courte période riche en rebondissements. La période durant laquelle Léopold Mozart, le père, a trimballé sa progéniture, à savoir le jeune Wolfgang, Wolfi pour les intimes, âgé de 7 ans, et sa sœur aînée, Maria Anna, alias Nannerl, à travers toute l'Europe. Les voyages forment la jeunesse, paraît-il. Pour Léopold, ils doivent surtout faire sa richesse, car, à chaque étape, il exhibera ses prodiges, comme des bêtes de foire, à la différence que ce n'est pas au cirque que les jeunes musiciens se produisent, mais devant toutes les cours d'Europe, et que en termes de quicheta, bah, ça fait une sacrée différence, car comme il l'affirme page 64, les rivalités entre nobles, Léopold s'en tamponne du moment que la moulaga dégringole. Ensuite, parce que comme tout mal en cours de déconstruction, Olivier Pion choisit de considérer l'histoire de Mozart avec une bonne dose de modernité. Ainsi décide-t-il de ne pas focaliser son récit uniquement sur le génie de la musique classique qu'était Mozart, mais à faire une large place à sa grande sœur Nannerl, qui ne manquait pas de talents musicaux, et ça, c'est historiquement prouvé. Et qui, en plus de ça, et ça c'est Olivier Pion qui l'avance, avait un caractère bien trempé, capable de résister aux facéties de son petit frère et à l'autorité rétrograde de son daron. À l'arrivée, on s'attache aussi bien à Wolfi qu'à Nannerl. À l'arrivée surtout, on s'est délecté de ces 280 pages de lecture qui se dévorent d'une traite et on se dit « Mais à quand le volume 2 des aventures de Mozart et de sa grande sœur ?»« Vite Olivier, prends ta plus belle plume, emporte tes héros où tu veux, jusqu'à la bourboule même, pour que nous continuions à lire et sourire de tes bons mots. » En attendant donc le volume 2, courez chez votre libraire préféré pour découvrir le premier roman d'Olivier Pion, c'est Mozart qu'on ressuscite. Ah non, merde alors. Mozart, un roman ébouriffant, paru chez Erol, collection roman d'histoire pop.
Voilà, dernière partie, quelques minutes avant de rendre l'antenne. Toujours dans Des poches sous les yeux, l'émission spéciale Olivier, avec un S. Hein, Olivier Pion, dis-moi Olivier Pion, Vincent a raison. Les addicts de la série radiophonique La Bourboule Parano, dont tu es une des plumes, hein, je vois la plume, hein, si on oublie les deux ou trois premiers épisodes, reconnaîtront quand même certaines similitudes. La Bourboule est citée dans ton roman sur Mozart, quand même. je me demande, on est quand même loin de Salzbourg, quand même, non?
Oui, mais en fait, c'est ce qu'on a dit et redit. Hein, ce qui fait le piquant, le charme de l'exercice, c'est qu'on peut prendre vraiment beaucoup de liberté. Alors, il y a une structure historique qui est avérée, c'est-à-dire quand on prétend que Mozart était là à telle époque ou que Victoria a dit ceci, etc. C'est vrai, mais après, on peut broder comme on veut et c'est ça qui est rigolo parce que ça permet d'introduire des anecdotes personnelles, des clins d'œil et aussi développer des thèmes hein, qui sont assez éloigné des personnages que l'on traite.
Et j'ai reconnu aussi une expression que tu utilises dans La Bourboule Parano et dans ton roman, une expression que je connais, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'autre l'utiliser, c'est « rossé d'importance
». Ouais. Ben, je sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé.
Tu roses d'importance.
Alors, je ne rose pas d'importance personnellement parce que j'ai un certain sens moral et puis une musculature assez défaillante. Mais j'aime bien cette expression rosser d'importance.
Ouais. Du coup, j'ai googlisé la sentence pour essayer de voir si est-ce que c'est une invention pionnesque ou pas.
Non,
a priori, ça reste du français quand même.
Oui, c'est pas un terme de la jeune génération, mais je ne fais pas partie de la jeune génération.
C'est vrai.
Non.
Et j'ai pas non plus vu de casou dans ton roman. Ça aurait été une bonne pour les addicts de la Bourboule Parano.
Alors, où le casou il y en avait un dans la première version qui a été
supprimé. C'est à cause d'Elisabeth.
Non, c'est pas moi.
Non, pas du tout. Alors, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Frédéric Le Romancé, qui est la correctrice du livre. Et bien, il y a vraiment un travail de réécriture, de correction qui est passionnant. Alors, j'imagine pour les gens qui ont une expérience de romancier ou de romancière plus étendue, c'est pas le même rapport. Pour moi, c'était la première fois. Et il y a vraiment, alors c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai échangé et travaillé de façon très enrichissante. Hein. Voilà. Et je lui pardonne volontiers d'avoir supprimé le casou dans l'un des épisodes, hein, parce qu'elle a apporté tellement d'autres choses que c'était, voilà. Mais alors, c'était prévu.
Les deux Olivier, là, on prend pas ça comme un espèce de viol, l'introduction de la correction?
Non, moi, Elisabeth m'avait prévenu au départ, elle m'avait dit, en gros, dis oui à 90% de ce qu'elle te dit, mais les 10% où qu'elle te dit non, c'est vraiment les choses qui te paraissent les plus importantes. Et j'ai réussi à faire passer tout ce qui était très important pour moi, des chapitres convenus. J'ai dit non, ça je le veux, je le garde. Certaines répliques, certaines choses comme ça, je les ai gardées. Et tout le reste, toutes les petites répétitions, les trucs comme ça, je dis oui, allons-y. Ça passe.
Elisabeth, c'est qui ces correctrices, ces correcteurs là, c'est des romanciers ratés, c'est, ou c'est un métier?
Ah non, pas du tout, non, c'est un vrai métier. D'ailleurs, elles sont plus que correctrices, elles sont éditrices. Et non, c'est un vrai métier où voilà, on apprend à vraiment voir la structure du roman dans son ensemble, voir s'il y a des endroits où il y a des personnages qu'il faut développer, des dialogues qu'il faut couper, rééquilibrer entre le narratif et le dialogue. Enfin voilà, donc c'est un vrai travail.
Parce que
de
quand
fond.
On s'attaque à des romans qui ont un axe décalé, par exemple, il faut être sûr d'avoir une correcteur ou correctrice qui soit aussi décalé.
Alors, il faut qu'il se mette aussi dans la voie de l'auteur et qu'il lui sabre pas les pattes, quoi. Ça, c'était, moi, j'ai eu le problème avec un éditeur sur un livre que j'ai écrit. Elle avait pas du tout le même humour que moi. Elle voulait tout me sabrer. J'ai failli péter un plomb. J'ai dit non, là, ça va pas être possible, madame. On va se calmer. Et là, les deux Olivier, heureusement, sont tombés sur des éditrices qui ont bien compris l'esprit, qui avaient déjà travaillé sur des romans de la collection et qui était vraiment à fond. Et
Il y a une formation pour être...
Ah oui, il y a des formations pour être éditeur, tout à fait. Oui, ça ne s'apprend pas en regardant par la fenêtre.
D'accord, très bien. Eh bien, merci à tous les trois.
Merci Pascal
d'être venu dans les studios de la Radio Béton pour ce dépoche spécial roman d'histoire pop, des romans ébouriffants chez Erol. Nous on se retrouve samedi prochain, samedi 26 octobre, avec encore une émission dépoche sous les yeux, mais ce coup-ci ce sera la mensuelle, donc on sera au soleil. On sera au soleil.
Un bel endroit, hein, ça.
À Saint-Pierre-des-Corps, hein, pour pouvoir tester ce lieu et puis écouter des chroniques et des interviews. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Merci.
Salut.
Des poches sous les yeux. L'émission. Ciao.